D'accord, merci Dominique. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc c'est avec grand plaisir que j'interviens aujourd'hui parmi vous sur une histoire de la radio, même si je vous avoue avoir un petit peu hésité à intervenir parce que je ne fais plus d'enseignement d'histoire depuis maintenant quelques années. Ça a été ma spécialité, l'histoire des sciences et des techniques, et en particulier les techniques liées aux médias et à la communication. Mais aujourd'hui, j'ai bifurqué depuis quelque temps désormais sur les technologies numériques au service de l'apprentissage et de la connaissance. Mais donc c'est un peu un retour aux sources pour moi que de faire cette conférence. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur une histoire de la radio. Je vais vous décevoir. En trois quarts d'heure, faire une histoire de la radio, c'est impossible. Le sujet est beaucoup trop complexe, touffu et rempli d'anecdotes et de différentes péripéties que reproduire cette histoire en si peu de temps est impossible. Donc, nous étions mis d'accord avec Dominique pour traiter plus particulièrement de 5 points. Je vais vous les évoquer tout de suite, comme ça, si vous souhaitez ensuite poser des questions à la fin de chacun de ces points, je pourrai répondre à vos questionnements. Le premier point concerne les débuts de la radio, l'histoire technologique de la radio, comment cette invention a-t-elle été mise au point et comment elle a structuré le paysage des médias à l'extrême fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis ensuite, voir comment, à partir de cette invention, une industrie radiophonique s'est développée. Elle a émergé dans les années 1920 et elle a surtout explosé dans les années 1930. Et quelques-unes de ses caractéristiques seront brièvement abordées. Dans les enjeux qu'a posé la radio très tôt, et ce sera le troisième point que j'aborderai, c'est la question de ses relations avec le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir militaire. La Seconde Guerre mondiale sera d'ailleurs l'occasion de mettre en exergue cette radio comme arme de guerre, avec toutes les conséquences que l'on pourra observer jusqu'à nos jours. Et puis cette question du pouvoir, elle se poursuit dans la seconde moitié du XXe siècle, et entre autres épisodes, nous avons retenu celui des radios libres, qui ont commencé à apparaître en Angleterre dans les années 60 et qui ont donné lieu à un vaste combat en Europe pour les libertés radiophoniques dans les années 1970 et 1980. Et puis pour conclure sur un cinquième point, je vous proposerai une réflexion sur la radio dite numérique, avec ses enjeux et les nouvelles formes qu'elle produit aujourd'hui. Voilà. Alors d'abord, quand on aborde l'histoire d'une invention, d'un média, souvent la première question qu'on se pose, c'est qui a mis au point cette invention, d'où ça vient? Et si vous posez la question à des Français qui s'y connaissent un peu, ils vous répondront Édouard Branly, bien sûr. Les Italiens rétorqueront, mais non, voyons, c'est Marconi, l'inventeur de la radio. Les Anglais protesteront en vous disant, mais enfin, n'importe quoi, tout le monde sait bien que c'est Lodge qui a inventé la radio. Les Américains se gausseront en vous disant, mais enfin, vous rigolez, sans Edison, jamais la radio se serait développée. Quant aux Canadiens, ils rigoleront sous cap en disant, tous les mêmes, ils oublient Fessenden, c'est lui le véritable inventeur de la radio. Alors, évidemment, tout le monde a raison si on veut, dans un certain sens. En fait, c'est la question qui n'est pas pertinente. Il n'y a pas un inventeur de la radio, et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose de beaucoup d'inventions, voire de la plupart. La radio est la naissance, en fait, de plusieurs courants de recherche scientifique, mais aussi d'expérimentation technique, plus ou moins réussie, et qui vont aboutir de façon empirique à la mise au dispositif radiophonique, avant que les choses s'organisent de façon un peu plus stabilisée dans les années 1920. Alors, on cherche souvent, quand on traite de la radio, une date fondatrice. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai retenu un certain soir de la veille de Noël 1906, le 24 décembre 1906, dans une baraque pas très grande, où une petite équipe autour d'un Canadien, Fessenden donc, est en train de produire ce que l'on pourrait considérer comme la première émission radiophonique, puisque leur objectif est de diffuser de la musique et de la voix à travers les ondes. Alors au départ, Fessenden avait une grosse ambition. Lui, ce qu'il voulait, c'était diffuser à travers l'Atlantique sa voix et des morceaux de musique. manque de chance, l'antenne qu'il avait fait construire en Écosse avait été détruite par une tempête quelques jours auparavant. Donc l'expérience est tombée à l'eau. Et il s'est rattrapé en diffusant simplement aux navires qui passaient dans l'Atlantique Nord et qui étaient susceptibles de disposer d'émetteurs Marconi et de récepteurs Marconi pour la TSF et de capter éventuellement sa voix et sa musique. Et donc il a commencé son émission avec une petite allocution, il a diffusé un petit morceau de Handel, il a joué un petit morceau de violon, et puis à la fin, il a surtout dit à ses auditeurs, si jamais vous me captez, n'oubliez pas, écrivez-nous pour savoir qui, où et jusqu'où on a pu être perçu. Pour lui, l'enjeu était de taille, car sa démonstration visait à obtenir de la part de financiers un soutien pour la jeune entreprise naissante qu'il lançait. Et d'après lui, son émission aurait été captée jusqu'à près de 800 km de l'émission. Et même certains opérateurs sur les navires qui disposaient de simples récepteurs morse en tendant l'oreille réussissaient quand même à capter des morceaux de voix et des bribes de musique produits par Fessenden. Alors, en fait, l'expérience de Fessenden, même si elle est fondatrice au sens où elle est la première émission radiophonique, si l'on peut dire, n'est qu'un épisode parmi d'autres, puisque la technologie utilisée par Fessenden était très très lourde et elle n'était elle-même que la synthèse de toute une série de technologies. En fait, la radio est à la confluence de deux courants scientifiques et techniques. Le premier, c'est tout ce qui concerne bien évidemment l'enregistrement de la voix. Être capable de capter la voix humaine, de la musique, et de la retransmettre. Alors on a toute une série d'expérimentateurs dès les années 1830 qui sont persuadés qu'avec le courant électrique, il est possible de reproduire les ondes acoustiques. Et donc on a ainsi des savants, des bricoleurs, de génies, des artistes qui se lancent tous azimuts, galvanisés par la recherche dans le monde du télégraphe, qui, à partir des années 1830-1840, structure le monde des télécommunications, d'abord aux États-Unis, puis en Europe, et donc encourage tous ces gens-là à essayer d'aller encore plus loin que simplement la transmission d'un signal électrique à travers les fils de cuivre. Alors, ces expérimentateurs ne vont pas réussir à grand-chose avant les années 1870. Et c'est surtout à partir des années 1870 que les enjeux et les problématiques techniques vont commencer à trouver un début de solution et qui vont conduire à une première invention qui n'est pas la radio, mais une invention qui lui est très proche, c'est le téléphone. En fait, la première innovation va être le téléphone, mis au point dans les années 1876-1877. L'inventeur que l'on retient, c'est en général Graham Bell. En fait, il était dans une course avec d'autres qui étaient sur le point de mettre la même invention sur le marché. Et d'ailleurs, lorsque Graham Bell a déposé son brevet pour enregistrer dûment auprès des autorités américaines son invention du téléphone, vous aviez Elisha Gray, le même jour, mais quelques heures après, qui déposait le sien. Ce qui a entraîné un très très long procès pour savoir qui avait la paternité de cette invention. Et c'est évidemment Graham Bell qui va l'emporter. D'ailleurs, le plus drôle, c'est que lorsque tous deux, Bell d'un côté et Elisha Gray, ont déposé leur brevet, ni l'invention ni de l'un ni de l'autre ne fonctionnait réellement. Les deux, en fait, n'étaient pas du tout opérationnels. C'était sur le point d'eux, mais il n'y avait encore aucune expérimentation satisfaisante pour pouvoir conclure à l'efficacité de leurs deux inventions. Et c'est surtout donc après cette période 1867-1877 que de multiples perfectionnements vont être apportés et qui vont conduire au téléphone, donc à la possibilité de transmettre par des signaux électriques la voix humaine, de la musique, bref, n'importe quel son modulé. Autrement du son, de transmission du son, le problème cette fois-ci de conserver, de graver le son. Et cette fois-ci, ce sont les travaux essentiellement d'Edison, puis d'autres techniciens, qui vont permettre, là encore, les premiers appareils d'enregistrement du son, que ce soit les phonographes, gramophones et autres techniques. Donc, vous avez toute cette branche de sciences et de techniques autour de la transmission, de l'enregistrement de son, de la voix, de la musique, à l'aide de signaux électriques. Et puis, à côté de ça, vous aviez une deuxième branche qui, elle, était davantage liée à l'électricité et au télégraphe, qui s'intéressait à une problématique qui et surprenait les savants de l'époque, qui étaient les phénomènes électromagnétiques. Alors les phénomènes électromagnétiques, c'est-à-dire la possibilité donc d'envoyer, d'émettre, de recevoir des ondes électromagnétiques, c'est un phénomène qui avait été théorisé par un grand savant, Maxwell, qui, en dehors de toute expérimentation, avait, entre guillemets, prédit la possibilité d'émettre et de recevoir ces ondes électromagnétiques. Mais il faut attendre la fameuse expérience de Hertz en 1887 pour mettre en évidence l'existence des ondes électromagnétiques. Alors, l'expérience de Hertz, certains d'entre vous la connaissent peut-être, elle est d'une simplicité biblique, si on peut dire, puisque d'un côté, vous avez ce qu'on appelle un éclateur. À l'époque, on appelait les éclateurs des machines électriques qui permettaient de fournir une énorme charge électrique, très puissante, qui se traduisait par la projection en général d'une étincelle très vive. Et puis, à quelques mètres, il avait installé un simple cercle de fer avec juste l'extrémité, un très léger vide laissé à l'extrémité de son cercle. Et l'expérience, si possible, on la faisait dans le noir le plus complet parce que sinon on ne voyait pas grand-chose, ça consistait à faire émettre avec l'éclateur l'étincelle très vive. Et à ce moment-là, on observait à quelques mètres, sans qu'il y ait aucun fil qui relie les deux machines, on observait sur le cercle une toute petite étincelle qui se mettait à apparaître à l'extrémité du cercle. Et grâce à cette expérience, Hertz mettait en évidence l'existence des ondes électromagnétiques théorisées par Maxwell quelques années auparavant. Mais lorsque Hertz a fait son expérience, il n'en voyait absolument pas l'utilité. Pour lui, c'était simplement une curiosité scientifique dont le principal mérite était de montrer que Maxwell avait raison. Et du coup, sur la base de l'expérience de Hertz, d'autres savants faisaient ainsi toute une série d'expériences sans forcément penser à la diffusion de messages, mais simplement sur la possibilité de capter des ondes électromagnétiques et sur les propriétés conductrices de matériaux à distance via justement ces ondes électromagnétiques. Et parmi ces expérimentateurs, on a un Français, Édouard Branly, qui, à l'Institut catholique de Paris, passait ses soirées libres à faire des expériences qui consistaient à mettre tout un tas de matériaux, à faire éclater des étincelles et à voir ce qui se passait. Est-ce que c'était conducteur, pas conducteur, etc. Et d'expérience en expérience, il mit en évidence un phénomène curieux. En plaçant dans un tube de verre de la limaille de fer, il s'est rendu compte que cette limaille de fer, lorsque l'on produisait une étincelle, s'orientait de façon à rendre le tube en verre conducteur de courant. Alors après quelques essais, il a commencé à faire ça d'abord dans son laboratoire, il faisait éclater son étincelle, il regardait son tube de limaille, tout content de son expérience, il s'est mis à l'autre bout du couloir, il a fait la même expérience et le tube de nouveau devenait conducteur. Il est descendu au rez-de-chaussée, voir si ça marchait d'un étage à l'autre, il est allé au fond du jardin de l'Institut catholique, voir si ça marchait toujours. Et alors tout fier et tout content, il a commencé à faire des cours et des conférences où... En guise de démonstration, par exemple, il installait une sonnette reliée donc avec son tube à l'imail, sans aucun fil, sans rien, parce qu'évidemment les gens disaient qu'il truquait, qu'il y avait un fil électrique qui reliait l'appareil, que c'était pas possible. Et à l'autre bout de la salle ou de l'amphi dans lequel il intervenait, il faisait éclater son étincelle, le tube de l'imail s'orientait, devenait conducteur et faisait sonner la sonnette auquel il était relié. Ancêtre de la télécommande, si on veut. Donc, on a autour de cette branche-là la possibilité de mettre en évidence ces ondes électromagnétiques et de commencer à mettre en évidence des phénomènes conducteurs autour de ces matériaux. Mais là encore, que ce soit chez Hertz, que ce soit chez Branly, personne n'imagine les possibilités en termes de communication de messages. En fait, personne n'y pense parce que pour pouvoir communiquer un message, il suffit pas d'envoyer simplement des ondes électromagnétiques. Il faut pour pouvoir retranscrire la complexité du son musical ou de la voix humaine, être en mesure de moduler, c'est-à-dire de traduire les courbes acoustiques en signaux électriques modulés. Et ça, évidemment, c'est une technologie qui nécessite un savoir-faire et des connaissances qui ne sont pas encore à la portée du premier venu dans les années 1880. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les expérimentateurs qui sont intervenus dans ces prémices de la radiodiffusion. On pourrait citer également un Russe, Popov, qui est un nom assez facile à retenir. Alexander Popov, lui, il est ni plus ni moins que l'inventeur de l'antenne. Mais là encore, il ne pensait pas du tout à la radio. Lui, ce qui le préoccupait, c'était de poursuivre les expériences de Benjamin Franklin sur les orages. Et il s'intéressait sur la possibilité de capter l'énergie électrique des orages. Et c'est incidemment qu'il s'est rendu compte que les antennes, notamment lorsqu'elles étaient positionnées à de très grandes hauteurs, facilitaient la capture d'ondes électromagnétiques. Donc, entre la branche autour de la transmission de son qui a donné naissance à l'industrie téléphonique et autour de toute cette activité centrée sur les ondes électromagnétiques, on arrive à la fin du 19e siècle à un ensemble de techniques, d'appareillages, etc., suffisamment élaborés pour qu'un jeune entrepreneur italien, Marconi donc, se disent qu'il y a peut-être une possibilité de faire, non pas encore de la transmission de voix, mais de faire de la télégraphie, c'est-à-dire de faire passer des signaux morse, point, tiré, signal court, signal long, mais sans fil, c'est-à-dire la TSF, la télégraphie sans fil. Donc Marconi va se lancer dans une série d'expérimentations à partir des années 1890, de plus en plus ambitieuses ces expérimentations, puisqu'il va faire ensuite des essais avec l'aide du gouvernement britannique à travers la Manche, puis à travers l'Atlantique, toujours à l'aide justement du principe d'émetteur et de récepteur. Le problème, c'est qu'il fallait des récepteurs suffisamment fins pour pouvoir capter les ondes électromagnétiques et des émetteurs suffisamment puissants pour que cette captation puisse se faire sur de très longues distances. Et comme Marconi est d'abord un homme d'affaires avant d'être un technicien. D'ailleurs, il n'est pas vraiment un technicien. Il sait faire travailler des gens qui ont la maîtrise technique. Marconi va très vite réussir à obtenir des financements de la part du gouvernement britannique pour faire en sorte que, justement, cette TSF soit exploitée, et en particulier dans les zones où la télégraphie filaire classique ne suffisait plus, en particulier pour les communications maritimes. Donc, évidemment, la marine anglaise est particulièrement intéressée par les travaux de Marconi. Alors, il y a une dispute parmi les historiens pour savoir si c'est vraiment Marconi qui est l'auteur de la TSF et si c'est pas plutôt Lodge, donc un Britannique. Lodge, en fait, a joué un rôle important dans la mesure où il a perfectionné...